FM 93, les sports avec Ray Cloutier.
Ah, Raymond des sports!
Oui, monsieur. On va commencer avec le football ce matin. C'était oui. Le Monday Night Football hier soir. Et les Seahawks de Seattle ont vaincu les Eagles à Philadelphie 23-17. Un 31e passe de toucher pour Russell Wilson, le quart des Seahawks. Mais avec ce gain, les Seahawks occupent le premier rang seul de la division ouest de la Conférence nationale. Pour Philadelphie, c'est une autre performance difficile pour le quart arrière Carson Wentz. Les Eagles n'ont que 3 victoires cette saison, mais ne sont toujours pas éliminés d'une place en séries éliminatoires parce qu'ils évoluent dans une division très faible, soit la division est de la Conférence nationale. Maintenant, la semaine numéro 12 n'est toujours pas terminée dans la NFL parce qu'il reste une partie à jouer, celle opposant les Ravens de Baltimore aux Steelers de Pittsburgh. C'est un match initialement qui devait avoir lieu jeudi dernier, le soir du Thanksgiving. Ça a été reporté parce que la COVID-19 s'est invitée dans le camp des Ravens. On l'a reporté une première fois à dimanche, avant hier. Ça a été reporté une autre fois. On devait jouer ce soir. Et hier, on a annoncé que ça allait être demain finalement le match entre les Ravens et les Steelers, si jamais on réussit à le jouer. Et demain, parce que ce match-là, il devait être présenté au réseau NBC. Il y a plusieurs diffuseurs des matchs de la NFL. Il y a Fox, il y a CBS, il y a ESPN, il y a NBC. Et NBC tenait à présenter ce match-là lorsqu'on le replacerait dans l'horaire. Sauf qu'il y a un conflit d'horaire demain soir pour le réseau NBC. Eux, de tradition, ils présentent
Faire de Noël, là?
Ouais, l'arbre de Noël au Rockefeller Center à New York. Ça, c'est une tradition. Puis ils font comme un gros show avec ça. On illumine le sapin. C'est prévu pour demain soir. C'est présenté à NBC, à la télévision. On fait un gros show de TV avec ça. Puis là, la NFL a dit, ben nous autres, on le déplacerait mercredi, le match. Pouvez-vous enlever ça, l'illumination du sapin? Là? On va vous présenter un match de la NFL.
Ouais.
Mais ils ont dit non. Il n'y aura pas de match de la NFL pour remplacer le sapin du Rockefeller Center.
Vous ne toucherez pas à ça. Ça fait 88 ans qu'ils font
ça,
un sapin
exactement.
À ce place-là.
Tradition. Gros party, il va y avoir de la musique puis tout le kit.
Des vedettes.
Fait que la NFL, ils ont dit « OK, ouais, on ne pourra pas tosser le sapin, ça va être là. » Alors, ils vont présenter le match à 3h30 demain après-midi parce que NBC n'a pas voulu déplacer son show de sapin. C'est pas bien compliqué. Là. La NFL est tassée par le sapin du Rockefeller Center.
Ça fait que c'est nouveau. Donc, tu avais le Monday Night Football, Sunday Night,
Thursday
Night.
Oui, c'est le premier match du mercredi.
Là, ça va être le Wednesday Afternoon Football.
Wednesday Afternoon Football. Si jamais on réussit à le jouer, là, parce qu'on l'a reporté quelques fois, mais la NFL a confiance que demain soit la bonne journée pour présenter ce match. C'est que là, on manque de temps pour reporter les parties. On arrive vers la fin de la saison. Il reste 4 ou 5 matchs aux équipes à jouer. C'est plus difficile de replacer un match dans le calendrier. D'ailleurs, le fait qu'on déplace ce match-là demain soir, on doit déplacer 2 autres matchs. Les matchs de la semaine prochaine impliquant les Steelers et les Ravens. Donc, lundi soir prochain, il y aura 2 matchs du lundi soir. Washington et Pittsburgh, ça a été déplacé de dimanche à lundi. Et Dallas-Baltimore, qui devait avoir lieu initialement dimanche, qui avait été déplacé à lundi, maintenant déplacé à mardi prochain. Donc, ça a beaucoup d'impact de replacer des matchs dans le calendrier de la NFL.
Pourquoi ils sont si réticents à faire une semaine de plus?
Bonne question, parce que il aimerait ça présenter le Super Bowl le 7 février. Le 7 février, c'est ça. La date prévue, c'est le 7 février pour le Super Bowl. Si tu ajoutes une semaine au calendrier régulier, tu dois décaler tout le reste. Puis là, tu dois décaler le Super Bowl éventuellement.
Mais il n'y a pas un jeu d'une couple de semaines entre le dernier match de la saison régulière et le Super Bowl?
Mais ils veulent garder le 2 semaines aussi.
OK,
là.
Ouais, c'est ça.
Autant que possible, on essaie de pas ajouter de semaines. Mais c'est pas impossible qu'on en vienne.
Pourrait être, à un moment donné, comme un peu pogné pour le faire.
Et voilà, pogné.
Pogné. Terme technique de logistique.
On va être bien franc avec vous autres, on est pogné. Alors voilà. Mais pour l'instant, on n'ajoute pas de 18e semaine.
Okay.
2-3 nouvelles dans le football. D'abord, il y a un receveur de passe qui a été suspendu hier pour 6 matchs. Will Fuller, de Fifth. Lui, c'est le 5e de la génération.
Oh,
il est receveur de passe avec les Texans de Houston. Et lui, au début de la saison, a consulté ce qu'il a appelé un professionnel de la santé pour soigner une blessure, un problème de santé. Le professionnel de la santé, il a dit, prends ça, tu vas être correct avec ça. C'est parfait, je m'en vais avec ça, moi.
Prends tes pénules-là.
Mais le médicament en question est interdit par la NFL. Alors, Will Fuller, the fifth, a été suspendu hier pour 6 matchs en expliquant son histoire. Là, j'ai consulté un professionnel de la santé. Il m'a recommandé.
Juste un conseil. Achète-toi de pain, t'es Tylenol.
C'est ça. Alors, résultat des courses, il est suspendu pour le reste de l'année et le premier match de la saison prochaine. À part de ça, Ligue junior majeure du Québec, il y a un point de presse aujourd'hui à 10h. Gilles Courteau, le commissaire de la Ligue, va discuter avec les gens des médias. Mais déjà, pas mal d'informations ont coulé hier suite à la réunion des propriétaires et des directeurs généraux. Somme toute, il n'y en aura pas de match en décembre dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Même si la bulle, ça a très bien fonctionné. Ça a été quand même assez onéreux comme événement. Donc, on a pris la décision avec la pandémie qui frappe encore pas mal un peu partout de suspendre les activités de la Ligue jusqu'au 3 janvier. Ça, c'est la date officielle, mais le 3 janvier, ça va être difficile de présenter un match le 4, mettons, là, parce que les joueurs vont être dans leurs familles respectives. Ouais. Des joueurs qui sont dans les Maritimes, en Ontario, un peu partout au Québec. Il y a des Européens à travers ça. Il va certainement y avoir quelques quarantaines à respecter au retour dans leurs villes respectives. Fait que d'ici la mi-janvier, il faut s'attendre à ne pas voir de match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
À moins que tu sois bien pressé dans le nombre de matchs que tu veux jouer la fin de la saison, tu veux pas finir avant telle date.
Ça, c'est probablement un des points qui va être discuté aujourd'hui parce que jusqu'à aujourd'hui, la Ligue a toujours dans son intention de disputer 60 matchs là, ça, par équipe. Ça commence à être difficile dans le temps de rentrer 60 parties. Quoique, tu sais, il y a des équipes qui en ont déjà joué 16 parties. Rimouski, Halifax, Rouyn-Noranda ont déjà 16 parties jouées. Depuis le début de la saison, il s'est joué au total 111 matchs dans la Ligue junior majeure du Québec.
Oh, OK, c'est bien plus que je pensais.
Oui, oui, oui. Dans les Maritimes, on a joué 13, 14 parties jusqu'ici pour
chaque
équipe.
Avec des rondelles à chaque fois?
Avec des rondelles, absolument. Il y avait rondelles disponibles. Sherbrooke est l'équipe qui a joué le moins grand nombre de matchs, 5. Donc là, tu vois, il y a une disparité pas pire. Là. 5 parties Sherbrooke. C'est ça. T'en as qui en ont joué 16. Comment on va réussir par la suite à équilibrer tout ça? Gilles Courteau s'adresse aux médias à compter de 10h aujourd'hui. Normalement, il y a une période de transaction dans la Ligue junior majeure du Québec. Je crois qu'on va la respecter, cette période de transaction, mais elle sera sûrement moins active que par le passé, parce que tu t'en vas quand même dans l'inconnu, dans l'incertitude. Une période de transaction, ça permet à des équipes qui ont une bonne équipe cette année de s'améliorer encore un peu plus, donc d'aller chercher des joueurs d'impact, mais ça coûte, ça coûte des jeunes joueurs, ça coûte des choix, donc est-ce que des équipes, exemple Val-d'Or qui a une très bonne équipe, est-ce qu'eux sont prêts à payer le gros prix pour aller chercher ce qui leur manque, exemple un défenseur, un gars Bergeron qui joue à Rimouski. Je ne sais pas si tu t'allonges jusque-là, mais en même temps, c'est là ta fenêtre. Là. Faldor, ils vont être bons cette année, mais s'ils attendent à l'an prochain, ils vont être moins bons. Donc, est-ce qu'ils vont dire on va essayer pareil, puis advienne que pourrira, on verra ce qui va se passer d'ici la fin de l'année.
Mais en plus, tu ne sais pas ce qui s'en vient, mais mettons, tu évalues les chances qu'il n'y ait juste pas de saison du tout, et les chances... Ils doivent être quand même relativement minces. Non?
Minces, exactement. J'aime ton point.
Ouais, peut-être quand même.
Parce que tu sais, l'an dernier, il n'y en a pas eu de série. Il n'y a pas eu de série. Il n'y a pas eu de Coupe Mémorial l'an passé. Mais c'est arrivé comme ça au mois de mars. On ne pouvait pas prévoir.
Non, c'est ça.
Cette année, moi, je suis d'accord avec toi. On peut prévoir avec un bon pourcentage qu'il va y en avoir une Coupe Memorial. Quelque part au mois de juin, probablement. Je pense qu'il va y avoir une Coupe Memorial cette année. Je pense qu'on s'en va vers mieux là, pour la pandémie. Donc, c'est possible, pareil. Des équipes tentent quelques transactions importantes.
Tu sais, les histoires de vaccins, là, je disais matin dans le journal que Moderna sont prêts à commencer à distribuer. Oui. C'est encourageant. Là, ils vont choisir l'ordre de priorité parce que t'as pas le choix là, dans la stratégie de vaccination.
Ouais.
On s'entend que, mettons qu'on élimine tout de suite les personnels du réseau de la santé, les gens peut-être dans les CHSLD. Tu sais, vraiment, la première couche de gens les plus à risque.
Ouais.
Mais... moi, les jeunes athlètes comme ça, là, j'aurais tendance à les prioriser autant que les étudiants, par exemple.
Ouais.
Je lisais, je sais plus où, je pense dans un magazine français, il disait les étudiants devraient être considérés comme parmi ceux qu'il faut vacciner au plus sacrant. Là, justement parce que les écoles et de la contamination, c'est important qu'il y ait l'école et tout ça. Parfait, je suis d'accord. Moi, les jeunes athlètes de même, là, les joueurs de la LHJMQ, c'est peut-être le meilleur exemple, mais aussi, tu sais, les joueurs de football et autres, puis les il me semble qu'eux autres, là, va falloir qu'on les vaccine. Puis dans les écoles, en plus, ceux qui sont encore à l'école, d'âge scolaire,
oui.
C'est assez efficace, me semble, là, la façon de vacciner. Il y a souvent des cliniques de vaccination et autres.
Ah, mais il y a une chose qu'on a vue, c'est que la bulle, ça fonctionne également. Évidemment qu'il y a un coût associé à ça. Il y a un coût, mais la bulle, ça fonctionne très bien. Là.
Oui,
le championnat mondial de hockey junior qui va avoir lieu dans quelques semaines en Alberta, ça va être un concept de bulle. Puis oui, je le répète, il y a des frais, là, mais ça va fonctionner, je suis convaincu. Là, oui. Ça a marché, la bulle, jusqu'à date. Donc, en deuxième moitié de saison, puis quand on va s'en aller vers les séries, puis ensuite, la Coupe Memorial, si jamais on est encore pris avec la pandémie un peu trop, ce serait pas surprenant qu'on fasse une bulle pour la Coupe Memorial. Puis, tu sais, il y a des façons de réussir à faire fonctionner ça. Puis on n'est pas en panique dans la Ligue junior majeure du Québec parce que quand ils ont commencé la saison, ils savaient que ça allait pas être un long fleuve tranquille. T'sais, ils ont commencé au début octobre, on était en plein dedans. Les deux autres ligues juniors au Canada, ils ont décidé de commencer plus tard. Eux autres vont commencer, c'est le 8 janvier pour l'Ouest et le 4 février pour l'Ontario. Eux ont décidé de pas prendre de chance. Ils ont une complication additionnelle, c'est qu'ils ont des équipes aux États-Unis. Donc, il y avait la frontière à considérer eux autres. Puis, ils ont préféré être plus prudents. Ailleurs au Canada, vous le voyez d'ailleurs, vous entendez les commentaires. Dans l'ensemble, ils ont été plus prudents, sauf dans l'Est, parce que dans l'Est, il y en a eu moins de contamination. Oui, dans les maritimes. Donc, on savait au début, dans la LHJMQ, qu'on s'en allait pour une aventure. Puis au quotidien, il fallait gérer les situations. Donc, il n'y a pas eu de surprise tellement. Puis moi, je trouve que ça a été géré de belle façon jusqu'à date. Puis là, bon, on prend la décision de suspendre tout ça, pas prendre de chance. J'aurais aimé ça qu'on fasse une autre bulle d'ici le 20 décembre, mais c'est pas moi qui paye les factures.
Ouais, c'est ça. Ben,
fait que moi, je peux dire ce que je veux.
Non,
là,
mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait des revenus aussi.
Oui.
Pas
ben là, ils ont eu de l'argent du gouvernement. Ouais, les équipes au Québec ont eu de l'argent du gouvernement. Ça aurait été le fun de faire une autre bulle d'ici le 20 décembre.
Oui.
Ça aurait été mon souhait. Mais comme je te dis, moi, ça ne me coûte rien de dire ça. Là. Puis c'est pas moi qui paye.
Tu peux te consoler chez vous en criant « Et le bulle! »
Brasukeko!
Brasukeko?
Goal. C'est Radou qui vient de compter.
Pas russe. Demain, on te fait jouer à Radou. Tu sais pas de quoi on parle, toi?
Jouer à Radou?
Ouais.
Et champagne pour tout le monde!
À Radou. C'est pas une joke, ça.
Elle pas bonne, ta toune, là.
Non, je sais, Ray.
Okay. C'est une toune de.
C'est une toune de. On avait fait ça à Info 800, mais ça me chose en même.
Ah, c'est toi, Ray, qui avait fait ça?
Non,
hein.
Qui est dans ça.
On recevait un chèque de paye de la même place, pas pareil.
On était là.
Okay. Ah, on était là.
Hier, j'ai vu un logo d'Info 800. Le reportage de Yannick Bergeron à Radio-Canada. Il fait ça dans une salle au Palais de justice,
ouais,
je crois.
Ouais.
Puis juste derrière lui, derrière son épaule gauche,
wow,
sur le classeur, il y avait un excellent logo d'Info 800 bleu.
Wow.
Ça n'a plus décollé de là. C'est pour ça qu'il est encore là. Ils sont plus capables de l'enlever.
Ah, mais il y a comme une espèce de petite salle de presse, une petite salle des journalistes où ils ont des postes de travail. Les journalistes sont sur le beat judiciaire.
Ben, au Colisée, j'ai quand je décrivais les matchs des remparts, il y a longtemps eu, puis il est encore là peut-être, un sticker rond de CKCV 1280.
Oh!
Ça, c'était à l'époque qu'il décrivait les Nordiques au début, là, dans la mâche. Puis,
je l'ai moins connu, moi, celle-là.
Il était là, le sticker sur la poutre d'acier. Es-tu déjà allé sur la galerie de presse du Colisée?
Non.
Sa chambre en lait, à la fin.
Oh oui, tu l'aurais entendu, ta présence, ben, moi, sur la galerie de presse. Ça faisait cric, cric,
cric. J'ai un peu peur d'aller sur celle-là du stade municipal. Du stade Canac.
OK.
Même celle-là du Stade Canac, des fois, là, ben moi, je suis un pesant, hein. Fait que c'est pas.
Ça paraît quand t'arrives.
Non, mais nous autres, les pesants, là, faut qu'on fasse plus attention que tout le monde, hein, parce que ça paraît sur certains endroits.
Le pas lourd.
Oui, des fois, là, des fois, une planche un peu affaiblie, là, ça y prend rien qu'un petit coup de 280 livres, puis crac!
Wow!
Mais ça, il n'y a rien là. À côté du pied pesant, Maurice Dumas, qui a quelque chose à dire, puis qui est en ligne, par exemple. Oh, ça, c'est quelque chose.
Il arrive d'un pas décidé.
Mais je t'ai entendu à radio.
Oh, pas là.
Ah oui,
il me fait. Mais non, sans Vidéotron, écoute, hey, c'est chic comme tout. T'as une fois ou deux à la galerie de presse, puis il me semble que c'est beau.
C'est haut.
C'est haut en mot, t'as dit, par exemple. Et que c'est haut.
Confirmé.
C'est plus bas que ça, d'habitude. Hein? C'est la seule que j'ai vue, moi.
C'est mieux orienté. C'est non seulement haut, mais c'est trop loin de. Il nous éloigne de la glace. Au Centre Bell, c'est haut aussi, mais on est plus près de la patinoire.
Parce que
on regarde les spectateurs, mais ça, c'est pas grave.
Comme ça,
Au Centre Vidéotron, t'amènes tes petites vues d'opéra, là.
Ah oui, c'est un...
Là, tu checks, tu fais, ah oui, ça, c'est... Ça, c'est Brian Smolinski. Ouais.
Mais c'est pas grave.
C'est à lui que t'as pensé en premier.
On était au 7e étage là, les deux dernières semaines, puis on s'est pas plaint. Là.
Ah ben non, c'est sûr.
Il y avait du...
C'est sûr.
Ah, OK.
Ben oui.
Deux, trois choses en terminant. Les Raptors sont arrivés à Tampa Bay, s'installent pour la prochaine saison de la NBA qui débute dans trois semaines exactement le 22 décembre. Pour ce qui est des joueurs des Raptors, premièrement, ils doivent passer quelques tests versus la COVID-19 qui doivent être négatifs. Ensuite, pourront s'entraîner de façon individuelle. Le premier entraînement collectif est prévu pour samedi ou dimanche pour les Raptors à Tampa Bay. Il va falloir s'habituer. Il n'y aura pas de gala de boxe finalement au Québec au mois de décembre. Eye of the Tiger Management avait l'intention de le faire, puis finalement, bien, on a décidé d'attendre en 2021. Et puis, Lewis Hamilton est testé positif à la COVID-19, c'est ce qu'on apprend ce matin. Ne sera donc pas du Grand Prix de Bahreïn en fin de semaine prochaine, parce que oui, il y a un deuxième Grand Prix en autant de fin de semaine à Bahreïn. C'est Stoffel Vandoorne qui devrait le remplacer.
Ah, qui?
Un Belge. Stoffel Vandoorne.
Ah, j'adore ce nom-là.
Qui a piloté en F1 il y a de ça quelques années. Il est pilote de réserve pour Mercedes et on croit que c'est lui qui aura le baquet, qui aura le volant pour la course de la fin de semaine.
Vandoorne. On l'a jamais vu, lui, avant?
Oui, en Formule 1.
On l'a déjà vu.
Ça fait quelques années, mais c'est pas...
Okay. Mais il va endormir légèrement.
Quand il y a ce passe-là, il cherche un jeu de mots, il m'énerve. Je t'ai vu chercher le jeu de mots hein, tout le long, au point où tu n'écoutais pas Ray, parce qu'il vient de dire qu'on l'avait déjà vu il y a quelques années, mais toi, tu avais juste le jeu de mots. Hein, target jeu de mots.
Il va endormir.
Oui, il va endormir
légèrement. Il va endormir. Hein.
Ouais, mon cerveau ferme dans ce temps-là. Je m'excuse à Ray,
vu,
à
tous
les auditeurs.
Stoffel, viens souper. C'est ça qui se faisait dire. C'est ça de son prénom.
Oh boy!
Petite correction, c'est TQS qui aurait sévi pour Aradou Doudou.
Ah ouais.
Mais c'était pas...
Un auditeur régulier que je ne peux identifier. Quoi?
Ouais. Non, je sais pas.
Pour conserver son...
Je te trouvais sacré.
Conserver, elle est bonne.
Mais c'était pas... Voyons, on m'a dit, j'ai un blanc épouvantable.
T'as un blanc, Paul?
Ah oui.
On aimerait t'aider dans ton blanc.
Tu chantes? Aradou.
Non, mais M. Fournier, notre
collègue... Ronald...
Oui, Ron.
Il l'a peut-être repris. Il l'a peut-être repris.
Je pensais qu'il avait fait un genre de Aradou Doudou, lui, non?
Peut-être repris.
Ah, c'est plus un Ossole Mio, son genre à Ron, me semble.
Ben, il y avait Pacioretty. Pacioretty, monsieur. Non, mais il y en a tout fait, là.
Oh, oui. Radulov, as-tu vécu cette époque-là? Non, oui.
Radulov, t'avais 15 ans. Ici, avec les remparts.
13 ans, 14 ans.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux? À Lévis, ça se rendait pas, les remparts.
Pourtant.
Ah, il était bon.
Non, c'est pas vrai, ça se
rend. Il était tellement dominant dans le junior, ça avait pas d'allure.
Ben,
puis il était spectaculaire. Tu sais, t'allais au Colisée pour ça.
Ben, j'ai aucun doute.
Hey, ça, c'est rare, là, quand même, dans le junior, où t'as le kingpin au Canada. C'était le meilleur joueur au Canada cette année-là, là. Pas proche, là. Il a gagné la Coupe Memorial.
C'est quand la dernière fois, par exemple, à part Radu, mettons, qu'il y a eu un joueur avec les remparts, qui est devenu aussi autant dominant dans la Ligue nationale.
En fait, il n'était pas dominant comme ça junior, mais Jonathan Audi Marchessault a quasiment une meilleure carrière qu'Alexander Radulov dans la Ligue nationale.
Ouais. Au niveau de la carrière, je te dis dominant, mais c'est vrai que Radulov n'est pas, en guillemets, dominant dans la Ligue nationale. Non. Mais ça demeure un très bon joueur.
Très bon.
Bon, des fois, éthique de travail, on le sait, pour des choix de carrière qui sont les siens.
Peut-être celui qui a joué le plus de matchs, c'est un défenseur, c'est Marc-Édouard Vlasic.
Oui.
Et puis, il n'est pas mauvais. Hein?
Vlasic.
Mais c'est pas le plus spectaculaire. Là.
Non, mais en termes d'importance de son équipe, par exemple, Vlasic pour les Sharks de San Jose.
Et voilà.
Comme je disais, il y a eu Simon Gagné, puis qui est comme la première génération.
Il y en a quelques-uns dans l'édition actuelle, à mon avis, qui vont, qui vont avoir une bonne chance de jouer dans le show.
Par exemple.
Malatesta,
il n'est pas vieux, hein, lui, ça se peut-tu?
C'est
même pas son année de draft.
Oui, c'est son année de repêchage.
Là, c'est son année de draft.
Il est arrivé l'an passé, donc 16.
Ouais.
Puis il me semble déjà, c'est probablement toi que j'entendais dire ça, mais déjà, là, on disait, oh, OK, surveillez-le, lui.
Le défenseur Naus également.
Ouais.
N-A-U-S-E.
Naus.
Il va être repêché deuxième ronde maximum, je pense.
Oh, yes.
Oui.
Malatesta, penses-tu que ça peut sortir en premier ronde?
Peut-être.
Ah, oui, tant que ça.
On verra.
Wow.
Qui Vivio Valdo.
Ah, ben, c'est rendez-vous au centre vidéo. Ah non.
Ça fait mal.
C'est plate, mais
oui, c'est plate parce que ce serait une belle saison
année,
à suivre.
C'est un beau groupe à suivre pour cette année et les années suivantes. Là.
Ben,
ça va recommencer.
Il va falloir qu'on te suive, toi. Tu es notre courroie de transmission.
Moi, je suis privilégié. Là.
Ça doit être trippant, moi, t'as
dit. Ça, c'est un de... Ben oui. Je les vois grandir, moi. Ils arrivent à 16 ans, c'est des ticus.
Ouais.
Ils n'ont pas de barbe au menton. ils repartent, c'est des hommes.
Là, j'ai vu les entrevues que tu faisais avec l'autre des remparts aussi. Puis il y en a, tu vois, tu sais, il y en a qui ont plus de verve que d'autres, tu sais. Puis t'en as, tu vois aussi qui sont pas vieux, là, puis sont comme un peu. Ils sont comme nerveux. Ils arrivent d'un genre de midget 3A ou équivalent, je sais pas trop, là. Puis c'est comme.
J'ai essayé de les mettre à l'aise. Ouais, je vous ai dit deux, trois niaiseries avant que ça parte. Là,
non, je te trouvais écœurant.
Il y a des gens qui. Tu sais, ils ont pas ça dans eux non plus.
Ouais.
Ils sont plus réservés un peu.
Ouais, ouais c'est ça. Mais non, je te voyais faire, je trouvais ça super hot parce que, en plus, pour quelqu'un de radio, de média et autres, pour un intervieweur, c'est un exercice, là.
Oui.
Interviewer des fois du monde que la réponse est
oui, oh, non, ouais. Toaster.
Non, bah, non, pas vraiment.
Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Mais Steph les imite bien souvent.
Il baragouine.
Oui, il est fâché. Un chien qui t'approche de sa niche.
Oui. Il parle à mes gars, là. Puis.
Mais ils ont quel âge, les gars, Steph? Genre
18. 18 et 20, ouais.
Ils vont s'en sortir, là. Ça
ben oui, bien, c'est là. Ça. Ben oui. Le meilleur est à venir.
Non, hey. Mais je pense que ça, c'est genre 12 à 18, ça doit être pas mal. 12 à 17, ça doit être pas mal le
pays. La phase ado.
Ado, mais tu sais, ado, pas.
Les bras qui traînent sur le long du corps.
J'allais dire pas beau, mais c'est les extrêmement méchant, là. Mais les bras qui traînent, puis ça pense à c'est tout parce que c'est en secondaire 5, là. Tu sais, quand t'es en secondaire 5, là.
Les gars plus que les.
L'école, fait que tu penses que tu sais tout, mais tu sais rien.
Les gars plus que les filles, pareil.
Oui. Oui. Les gars, ils ont plus, oui. de confiance facile, insignifiante. Là, ouais.
On s'évache très bien.
On se construit une confiance basée sur pas grand-chose.
Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais à 20 ans, on pense qu'on sait tout, puis à 30 ans, on se rend compte qu'on sait rien.
Ah oui, mais ça, c'est la loi de quoi déjà? J'avais trouvé un nom à ça, cette loi-là. Oui, oui, oui. Il y a un théoricien, le grand théoricien de...
Van Doorn?
Non, c'est pas Van Doorn.
Pas tout simplement la caverne, non?
Non. C'est.
Ça aurait été très simple, hein, de faire réfuter, je pense.
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ça, mais c'est la théorie qui dit que.
À 20 ans, on croit qu'on sait tout. À 30 ans, on se rend compte qu'on sait rien.
Non, c'est pas en fonction de l'âge, mais c'est. Moins t'en connais sur quelque chose, plus tu penses que tu connais ça. Puis plus tu connais sur ce.
C'est le point d'incompétence, ça se peut-tu?
Ouais. Puis plus tu connais, plus tu es compétent dans un domaine, plus tu réalises à quel point tu sais rien, puis à quel point t'en manques, puis à quel point c'est compliqué. Donc,
c'est la caverne, c'est le principe pareil. Là. C'est,
ouais,
c'est la double ignorance par rapport à la simple ignorance.
Là, qui s'appelle genre la théorie de.
Principe de Peter?
Von. Non.
Non.
Non, Vancouverden, non, c'est pas ça. Ça, c'était plus...
C'était bon, Vancouverden.
Aux Olympiques, ça.
Ouais, c'est un kayakiste.
Oui.
Adam Vancouverden.
Ouais. Il était bon, lui. Était
très clair, bon.
Alors, on va prendre une pause là-dessus.
Ah ouais, donc.
Pendant que je cherche mon autre théorie hot, là, ça ferait... Tu sais, quand t'essayes de citer une théorie, là, puis que tu réussis, là, ou tu sais, citer un philosophe, là, t'as l'air d'un érudit, puis quand tu t'essayes de citer quelqu'un, puis tu l'as pas, t'as l'air d'un épée.
T'as atteint ton niveau d'incompétence.
Oui, 7h, 7h. On revient.